France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La question de la place et du rôle des femmes à la préhistoire sont au cœur de discussions scientifiques intenses depuis des années, discussions largement alimentées par les débats contemporains sur l'égalité. Comme le dit l'historienne Michel Perrault, au théâtre de la mémoire, les femmes sont ombres légères. Fin de citation. Rendues discrètes, voire invisibles en partie à cause d'une vision de l'histoire et de l'archéologie centrée sur les hommes. Dans son dernier livre, notre invité du jour refuse cependant les récits plaisants d'un âge d'or matriarcal suivi d'une chute brutale au néolithique. En s'appuyant sur l'archéologie du genre, elle cherche les racines matérielles de la domination masculine du paléolithique moyen à la fin du néolithique dans un compte-rendu rigoureux fondé sur l'étude des traces matérielles. De cette enquête, il ressort entre autres que le monopole des armes ou le contrôle social de la reproduction ont façonné le destin des femmes bien avant l'invention de l'agriculture. Comment l'archéologie du genre, mais aussi la paléoanthropologie ou encore la paléogénomique, nous permettent-elles progressivement de remonter aux origines préhistoriques de la domination masculine ? Nous plongeons aujourd'hui dans le temps profond pour combler le vide de nos connaissances sur la place des femmes à la préhistoire et ainsi mieux comprendre notre présent. Et notre chef de plongée aujourd'hui, c'est vous, Anne Augereau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, archéologue à l'INRAP. Vous êtes l'autrice du livre Une préhistoire des femmes, paru aux éditions La Découverte. Vous avez également écrit avec Christophe Darmanjat le livre Aux origines du genre, paru aux presses universitaires de France. Et vous êtes également l'autrice de Femmes néolithiques, le genre dans les premières sociétés agricoles, aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à parler de ce sujet très complexe. Vous êtes, je le disais à l'instant, en parlant de ce titre femme néolithique, spécialiste du néolithique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous aventurer en amont du néolithique pour comprendre l'origine du patriarcat ?
Parce qu'on pense souvent, et il y a un certain nombre de publications, qu'elles soient en direction du grand public ou même des publications plus spécialisées, qui affirme que le patriarcat, la domination masculine, se met véritablement en place au néolithique et qu'avant, pendant les périodes où les chasseurs-cueilleurs dominaient, eh bien, il n'y avait pas de domination masculine. Il y avait une égalité entre les sexes qui faisait que les femmes étaient les égales des hommes. Et du coup, je me suis interrogée là-dessus en me disant quelles étaient les données archéologiques qui permettaient d'affirmer ce type de récit. Et je me suis donné les moyens d'investiguer la domination masculine dans les populations antérieures au néolithique pour essayer de répondre à la question.
Les bornes chronologiques de votre enquête sont larges, ça va de moins 300 000 ans à moins 4200 ans. Quelles sont les raisons de ce choix de bornes temporelles ? Qu'est-ce que ça vous permet de faire concrètement ?
Alors concrètement, ça permet d'englober une ère chronologique assez vaste. Et c'est important d'avoir ce recul chronologique parce qu'en préhistoire, on n'a pas beaucoup d'informations. Et je pense qu'on a intérêt à regarder les choses dans la continuité du temps pour essayer d'en faire sortir un certain nombre de traits constants ou non constant justement, mais on a besoin de profondeur historique et préhistorique, donc puisqu'il s'agit de préhistoire, pour comprendre comment les sociétés étaient organisées dans ces temps très éloignés.
Les difficultés doivent être nombreuses à mener une archéologie du genre à la préhistoire. Quels sont les principales difficultés à surmonter quand on se lance dans cette entreprise ?
Alors, les écueils, c'est, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Mmh. On a surtout des silex taillés, quelques os, quelques squelettes provenant de sépultures, des traces d'habitat, mais on n'a pas d'écriture. Et donc, c'est à partir de ces traces un peu évanescentes qu'il faut essayer de reconstituer la vie à l'époque, et notamment les relations entre les hommes et les femmes, qui sont un sujet extrêmement difficile à aborder. Mais on a une chance, entre guillemets, nous, en tant que préhistoriens, c'est que lorsque l'on regarde comment les relations entre hommes et femmes se font dans l'époque actuelle, eh bien, on s'aperçoit que le genre, en fait, il doit se matérialiser. Il se matérialise dans les vêtements, il se matérialise dans les espaces. Il y a des espaces plutôt masculins, plutôt féminins. Il se matérialise aussi dans les activités des hommes et des femmes, des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Bon, même si tout ça est en train de disparaître peu à peu, il reste quand même de grands vestiges des différences hommes-femmes sur ces aspects matériels. Et donc, La matérialité, c'est la chose qui nous parvient de l'archéologie et de la préhistoire. C'est vraiment des vestiges matériels qu'il nous faut étudier et interpréter.
Je le disais en introduction de cette émission, le sujet de la place des femmes à la préhistoire n'a pas toujours été un sujet pour les études en préhistoire. Comment expliquer cette invisibilité des femmes dans cette enquête scientifique?
Alors, l'invisibilité des femmes, elle est, ça a été dit et redit par certaines de mes collègues. Elle provient un petit peu de biais que nous avons eu et que nous avons encore, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus de biais du tout aujourd'hui. Mais en tout cas, pendant une longue période, les préhistoriens ont été entaché, entre guillemets, la pensée des préhistoriens a été sans doute entachée de biais patriarcaux, pardon. Et du coup, on avait tendance aussi à projeter dans les sociétés du passé une organisation qu'on observait tous les jours autour de soi dans la société. Donc effectivement, c'est plutôt l'homme chasseur. On parlait sur beaucoup de l'homme préhistorique qui chasse, qui taille le silex, qui peint les murs des cavernes, enfin les parois des cavernes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pensé aux femmes dans cette description générale.
Et l'archéologie du genre s'emploie justement depuis les années 70 à corriger ce manque. Oui. Ça conduit aussi cette archéologie. Alors peut-être qu'on peut définir ce qu'est cette archéologie du genre, puisque dès qu'on parle de théorie du genre, archéologie du genre, on fait un peu des confusions et on dit tout de suite, c'est pas de la science, c'est militant de parler de genre. Alors expliquez-nous justement quel cadre scientifique pose l'archéologie du genre.
Alors l'archéologie du genre pose un cadre scientifique qui consiste d'avoir une bonne connaissance sur comment se passent les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés qu'on peut observer ou les sociétés où il y a des textes. Et il y a tout un tas de leviers de la domination masculine, de leviers de caractéristiques de relations entre les sexes qui peuvent être relevés et qui permettent de comprendre comment s'articulent les relations de genre entre les hommes et les femmes dans différents milieux. Et il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en évidence. Je peux en citer quelques-uns et j'en ai cité quelques-uns il y a à l'instant. C'est que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Et bien souvent, dans beaucoup de cultures, le vêtement des femmes est un vêtement qui les entrave contrairement aux vêtements des hommes, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et donc, il convient de se poser la question si en préhistoire, dans la préhistoire, il y avait un vêtement spécifiquement masculin ou féminin. Il y a aussi des habitudes alimentaires qui diffèrent. De nos jours, les femmes mangent moins de viande que les hommes. Et on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi c'est comme ça et si ça a été toujours de cette manière-là dans le temps passé. Que dire d'autre ? Il y a aussi des âges au mariage qui sont assez constants. La femme, elle est souvent bien plus jeune que l'homme qu'elle épouse. Donc ça, c'est vraiment une constante qu'on a encore de nos jours. Bon, il y a tous ces aspects-là qui se renvoient et qui sont des leviers qui peuvent être des leviers de la domination masculine envers les femmes.
Donc ça, c'est pour le cadre théorique que pose finalement l'archéologie du genre. Cette archéologie du genre, elle a conduit aussi à des théories que vous déconstruisez, ou en tout cas que vous critiquez dans votre ouvrage, qui font finalement plutôt référence à des mythes ou à des espoirs qu'à des réalités concrètes. Expliquez-nous un petit peu comment cette archéologie du genre a pu conduire à des interprétations qui sont erronées.
Alors, il y a comment dirais-je un trait qui est un peu gênant, c'est comme ça quoi. Il faut en tenir compte. C'est le fait que l'on a souvent imaginé, en tout cas à partir des années 60-70, pour faire court, on a imaginé le mythe d'un matriarcat primitif qui aurait régné durant la préhistoire dans le néolithique et qui aurait été mise à mal à la fin du néolithique par des invasions venues des steppes pontiques. Donc il y a cet aspect-là qui a été extrêmement prégnant, mais qui n'est fondé que sur des données disparates. C'est l'archéologue Maria Gimbutas qui a beaucoup développé cette théorie et qui se fonde sur des signes que l'on peut relever sur la céramique, des ondulations, des triangles. Ça, elle se fonde aussi sur la présence de petites statuettes qui sont effectivement essentiellement féminines. Et l'ensemble de ces informations qu'elle a recueillies, lui ont fait dire que lors de la préhistoire, il y avait certainement des sociétés plus égalitaires entre les hommes et les femmes, et d'autre part, une religion fondée sur la déesse mère. Mais ça a été démenti de multiples fois par le passé, parce que les données sur lesquelles elles se fondent sont extrêmement disparates, elles sont mal interprétées, elles proviennent de contextes extrêmement variés, et on peut pas dire que, par exemple, les zigzags, c'est l'eau de la déesse dans son épiphanie sur la vie ou sur la Renaissance. Donc, c'est une interprétation, comment dirais-je, qui va au-delà des données et qui est fausse.
Si on peut du coup pas se fier justement à ce type d'indice, puisque c'est vrai que quand on pense au paléolithique, on se dit c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de statuettes qui représentent des femmes, sur les parois des grottes il y a des sexes de femmes qui sont gravés, donc on se dit les femmes devaient avoir une place importante, ça devait correspondre justement comme vous le disiez à ce culte de la déesse mère. Si on écarte ça en se disant finalement c'est vrai que si on regarde au 19e siècle il y avait beaucoup de femmes peintes nues et pour autant elles n'étaient pas plus libres ni plus respectées, donc voilà, mettons ça de côté. Quelles sont les traces vraiment probantes qui vont vous permettre à vous, en tant qu'archéologue, de mener cette enquête pour comprendre l'origine de la domination masculine à la préhistoire?
Alors, les traces sont de plusieurs ordres. Si on veut documenter, par exemple, les activités des hommes et des femmes, il y a des informations qui peuvent être recueillies sur la forme des os, des squelettes que l'on retrouve dans les sépultures, puisque lorsque l'on réalise une activité suffisamment longtemps et suffisamment intensément, il y a des modifications osseuses qui apparaissent. L'os est un organe vivant, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a des modifications osseuses, des attaches musculaires qui vont se transformer, qui vont se renforcer. Il y a aussi des pathologies osseuses. Et lorsque l'on regarde tout ça chez les hommes et chez les femmes préhistoriques, on s'aperçoit que hommes et femmes n'ont pas tout à fait les mêmes traces osseuses. Donc, et les hommes se caractérisent par une surutilisation de leur bras droit. D'une part, et d'autre part par des pathologies osseuses au niveau du coude qui peuvent résulter d'un geste de lancer répété au-dessus de la tête. Et donc les interprétations vont vers le fait que ces hommes ont pu lancer des sagaies avec ou sans propulseur, etc. Et les femmes n'ont jamais cette trace au niveau de leur coude droit, elles en ont d'autres mais elles n'ont pas ça. Et elles ont aussi des activités plus bimanuelles que les hommes, qu'on a pour le moment un peu de mal à caractériser. Et on a du mal à émettre des hypothèses sur quelles étaient ces activités bimanuelles, mais en tout cas...
Les hypothèses à nos jours?
Alors, les hypothèses, ça peut être pour le néolithique, puisque c'est le cas pour le néolithique, mais pas seulement. C'est plus facile parce que c'est le début de l'agriculture, de l'élevage, de la culture du blé. Et donc, qui dit culture du blé, dit fabrication de farine. Et on connaît des meules à bras du néolithique qui ont pu être utilisées, qui ont été utilisées pour moudre les grains de blé pour faire de la farine. Et ces meules à bras se manipulent à deux bras. Et c'est vrai que lorsque l'on a beaucoup de... qu'on réalise cette activité extrêmement fréquemment, ça peut modifier les bras des femmes qui étaient particulièrement musclées au néolithique.
On a parlé du fait qu'il y ait peu de vestiges finalement de registres fossiles et assez lacunaires pour quand on monte dans le paléolithique. Là, on parle d'adultes. On n'a pas parlé des enfants. Ça aussi, c'est une question vertigineuse de se poser la question. Est-ce que dès le paléolithique, il y avait une distinction genrée finalement? Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles on a des réponses déjà?
Alors, on n'a pas beaucoup de réponses. L'archéologie de l'enfance, c'est très compliqué pour une simple raison. Enfin, quand on la traite en termes de genre, c'est que il est plus difficile de déterminer le sexe des enfants que des adultes. C'est-à-dire que le bassin, c'est principalement le bassin qui sert à déterminer le sexe, et ces conformations féminines et masculines n'apparaissent qu'à vers l'âge de 16 ou 17 ans. Donc on a beaucoup d'enfants, il y a des enfants qui ont été enterrés et on en connaît un certain nombre, mais on a du mal à leur attribuer un sexe. Donc l'archéologie de l'enfance, si l'on veut véritablement travailler sur les individus, c'est un peu compliqué. Mais il y a un certain nombre d'autres données qui peuvent être envisagées. Par exemple, on a pour le paléolithique moyen et récent, des armes miniatures. On a des petits propulseurs, c'est des instruments qui servent à propulser la sagaie et qui permettent de démultiplier la vitesse du projectile. On en a des grands pour les adultes, puis on en a des tout petits. Et on s'est demandé s'il ne s'agissait pas de jouets pour enfants et du coup peut-être d'enfants masculins. Mais la deuxième partie de la proposition sur les enfants masculins, pour le moment, elle est totalement hypothétique.
Donc l'enfance, c'est encore une zone à explorer largement. Si on se déplace vers l'adolescence, le jeune âge adulte, la préhistoire, on imagine qu'on rentrait finalement d'une certaine façon dans la vie adulte plus tôt, puisque l'espérance de vie était plus courte. Intervient ce moment de la puberté et donc se pose la question de la maternité. Là aussi, comment on se pose la question en tant qu'archéologue du genre de cette importance de la maternité dans la domination masculine, dans la genèse du patriarcat?
Alors, la maternité, c'est un fondement biologique qui s'ancre dans l'évolution biologique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les femmes ont la capacité de faire des enfants et les hommes n'ont pas cette capacité, en tout cas, de les nourrir dans leur sein. Donc cette capacité de procréation, c'est un levier de la domination masculine qui a été constaté dans pratiquement toutes les sociétés humaines. On cherche à contrôler le corps des femmes pour assurer la pérennité de l'espèce et la reproduction de l'espèce. Et ce fait-là, il est constaté également en préhistoire, c'est-à-dire qu'on va pour profiter de toute la période de fécondité des femmes, les marier très jeunes, plus jeunes que les maris avec lesquels...
Vous le disiez tout à l'heure, 4 à 9 ans en général.
Oui, 4 à 9 ans en général.
Plutôt
que les hommes. Et ce fait-là, on le constate en préhistoire sur 250 000 ans, puisque grâce à la génétique, on arrive à tracer un certain nombre de modifications, de variants génétiques. Et ces variants génétiques nous indiquent qu'en moyenne, sur toute cette période-là, les femmes ont des enfants plus tôt, 4 à 9 ans plus tôt que les hommes, et donc ont été certainement intégrées au mariage plus tôt que leurs compagnons.
Vous parliez donc tout à l'heure, Anne Augereau, du fait que les hommes manipulent les armes létales. Là, grâce à la paléogénétique, on se rend compte que les femmes enfantent plus tôt, ou en tout cas, sont mariées plus tôt que les hommes. On voit donc une maîtrise de la violence par les hommes, une maîtrise du corps, finalement, des femmes par les hommes. Il y a aussi la question du pouvoir qui se pose et de comment on interprète finalement tous ces ornements symboliques qu'on retrouve dans les sépultures. Est-ce que là aussi, le pouvoir politique, entre guillemets, est le privilège des hommes depuis des temps très anciens?
Alors, je vais rajouter quelque chose sur les aspects de mariage et de maternité. Il y a aussi une donnée extrêmement constante, c'est que les femmes se déplacent pour se marier, c'est-à-dire qu'on a affaire à des mariages patrilocaux pour l'essentiel. Il y a aussi d'autres systèmes, mais en tout cas, de manière plutôt majoritaire, quasiment toutes les études sur la préhistoire montrent que ce sont les femmes qui se sont déplacées plus que les hommes pour se marier, notamment, et sans doute pour se marier. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et qui est vraiment un levier extrêmement important de la domination masculine, puisque avec le monopole des armes létales, le monopole des armes létales permet aux hommes d'avoir un poids politique dans les négociations avec d'autres communautés. Et dans ces négociations, qui ont été constatées notamment par Lévi-Strauss, c'est la circulation des femmes, etc., l'un des éléments de la négociation peut être la femme, une femme que l'on peut proposer au mariage à son allié ou au contraire pour sceller une paix ou un épisode plus calme pour remettre la société dans le calme par rapport à ce qui a pu se passer avant. Donc la manipulation des armes létales qui semble être pour la préhistoire un monopole masculin. Et le déplacement plus fréquent des femmes, à mon avis, c'est deux éléments qui indiquent que durant la préhistoire, la domination masculine était déjà un fait assez répandu.
Donc du coup, là, on a vraiment une genèse, une généalogie de cette domination masculine qui remonte donc bien au-delà du néolithique. On parle donc de cette maîtrise du corps, de cette maîtrise du pouvoir. On a évoqué la division des tâches, la division du travail. Est-ce que ça, pour le coup, la division du travail, c'est vraiment un signe aussi d'une domination masculine? Je crois que tous les anthropologues ne sont pas forcément d'accord. Ouais. Un certain Alain Testard lui disait non, il ne faut pas du tout confondre les deux. Vous, quel est votre point de vue sur cette question?
Alors, mon point de vue, c'est que, en tout cas pour la préhistoire, on arrive à bien déterminer quelles étaient une partie des activités masculines, et c'est vrai que les indices vont vers la manipulation des armes létales pour la chasse et probablement aussi pour la guerre. Pour les femmes, c'est un peu plus, on en parlait tout à l'heure, pour les femmes c'est un peu plus compliqué, on a moins d'informations, mais ceci dit, quand on en a, on peut penser que les femmes n'ont pas du tout accompli les mêmes tâches, enfin pas du tout, dans certains cas, n'ont pas accompli les mêmes tâches que les hommes. Ça se voit encore une fois par un certain nombre de modifications osseuses, dont je parlais tout à l'heure, qui affectent les bras, mais aussi qui affectent les jambes, les os des jambes. C'est-à-dire que de manière assez constante, on voit que les hommes préhistoriques, néandertal, paléolithique récent, mésolithique et néolithique, ont des musculatures sur leurs jambes qui sont plus importantes que les femmes.
Et pourtant, les femmes étaient des athlètes,
le dire. Alors là, je vais le dire. Les femmes étaient des athlètes, et les athlètes, quand on était dans des milieux aussi difficiles que les milieux glaciaires au paléolithique moyen et récent, il fallait être quand même de constitution assez robuste. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que les femmes se sont donc moins déplacés que les hommes. En moyenne, évidemment, il y en a qui courent partout et d'autres qui sont moins mobiles. Mais quoi qu'il en soit, il y a véritablement une différence dans les déplacements entre les hommes et les femmes tout au long de la préhistoire. Donc, leur aire d'activité était plus restreint que les hommes. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les chasseurs-cueilleurs nomades que pour les agriculteurs.
Alors, on a parlé aussi de ce pouvoir. Moi, je me pose la question, parce qu'il y a quand même certaines sépultures qui nous disent qu'on a affaire à des femmes d'élite, à des femmes de pouvoir. Ça, comment on l'interprète? Est-ce que c'est des exceptions qui confirment la règle?
Alors, on a des femmes qui ne sont pas dans les normes classique que l'on constate sur l'ensemble de la population féminine d'une période. On a par exemple des femmes qui, dans leur tombe, ont des armes de chasse, qui semblent avoir, dans certains cas, pratiqué peut-être le tir au propulseur ou le tir de sagaie sans propulseur. Donc on a des femmes qui ont été, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et toute la question, c'est de les interpréter. Pourquoi elles ne sont pas, elles n'ont pas un mode de vie, en tout cas des activités qui sont identiques à l'ensemble des autres? Est-ce qu'il s'agit de chasseuses et de guerrières à temps complet, ou en tout cas dans une bonne partie du temps, comme l'étaient les hommes, ou est-ce que c'est autre chose? Et on doit absolument se poser la question et ne pas tout de suite cette bille en tête se dire ce sont des chasseuses et ce sont des guerrières à l'égal des hommes. À partir du moment où la majorité n'est pas dans ce cas de figure de manipulation d'armes de l'État, de la majorité des femmes, il est indispensable de se poser la question de pourquoi il y en a quelques-unes qui sont différentes. J'ai parlé, et ça fait bondir un certain nombre d'auditeurs, j'ai parlé une fois de troisième genre. Mais le troisième genre, c'est un constat qui a été répété à plusieurs reprises et qui est extrêmement courant dans les données anthropologiques. C'est-à-dire qu'il y a quelques femmes, parfois ce sont des hommes, il y a quelques femmes qui sont autorisées à vivre comme des hommes. C'est le cas, par exemple, très proche de nous, des vierges jurées d'Albanie qui sont autorisées par les hommes, parce qu'elles n'en prennent pas l'initiative tout de suite, toutes seules, je veux dire, à vivre véritablement comme des hommes, à fumer, à boire, à chasser, à conduire des camions, etc. Donc, ce sont des femmes hommes. Mais encore une fois, c'est un exemple de troisième genre. Mmh. C'est un exemple de troisième genre. Elles sont biologiquement femmes, mais elles sont autorisées à se comporter comme des hommes.
Anne Augereau, si on fait le bilan, on a dit que les femmes circulent plus à la préhistoire du fait d'échanges entre groupes. On a dit que la maternité était une constante qui les assignait d'une certaine façon à une forme d'immobilité pendant au moins un temps, qu'il y avait une division du travail qui existait depuis la préhistoire, que l'usage des armes létales étaient réservées aux hommes et que ça avait un rôle à jouer dans l'exercice du pouvoir. On comprend donc que cette domination masculine est ancrée dans la nuit des temps, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à dire que c'est finalement que la domination masculine et que le patriarcat est une norme, est une règle et que à quoi bon s'y opposer finalement ?
Alors, surtout pas. Il ne faut surtout pas se dire ça parce qu'effectivement, cet état de fait, il semble en tout cas très ancien. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est ancien, il est indépassable. Il y a tout un tas de choses que l'on a dépassées, ne serait-ce que des traits biologiques qui nous sont propres. On a maintenant la possibilité, nous les femmes, de choisir ou non d'avoir des enfants, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une fatalité d'avoir des enfants ou pas. Et ça, c'est fondamental. Et ça lève le carcan, entre guillemets, de l'ancrage biologique de la condition des femmes. Parce que c'est quand même un ancrage biologique. Donc, on peut dépasser ça. On a aussi, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, maintenant la faculté de voler, ce qui n'était pas du tout dans notre constitution.
De voler dans les airs.
Oui, dans les airs.
Parce que voler, ça on sait faire.
Voler aussi dans les magasins, et d'ailleurs on le fait.
En tout cas, merci beaucoup, Anne Augereau. On va finir sur cette note un peu comique, mais une préhistoire des femmes. Donc, c'est le titre de votre enquête passionnante parue aux éditions La Découverte. On comprend aussi qu'il y a encore plein de travaux à conduire dans cette archéologie du genre pour explorer cette histoire de la domination masculine. Merci encore d'être venu en parler.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Éric Perruchot-Triboulet aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.